Et après, un podcast de Louise et du Pôle Louvain.
Il y a quelques mois, chez Louise, on a reçu un mail. Un fort jeune Brabant Wallon nous demandait si on voulait bien faire la promotion d'un ciné-débat sur la santé mentale. Évidemment, on a accepté. Et puis moi, je me suis dit, mais en fait, on pourrait en parler dans et après. C'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. D'ailleurs, ce ne sont pas les dernières estimations de l'UNICEF qui vont me contredire. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, plus de 16% des jeunes Belges de 10 à 19 ans sont atteints d'un trouble mental. Ça fait environ un jeune sur 6. La dépression, l'anxiété, les troubles du comportement figurent parmi les principales causes de maladies et d'invalidité chez les ados. Derrière ces chiffres, il y a plein d'histoires. Aujourd'hui, c'est celle de Sai qu'on va découvrir. Je m'appelle Magali et vous écoutez Et Après.
Tout a commencé plus ou moins en janvier 2020, donc après les vacances de Noël qui venaient de passer, j'étais en 4e secondaire. Et en rentrant en classe, je me mets à faire ce que j'associe à des crises d'angoisse à ce moment-là. En vrai, je fais pas grand-chose. J'attends que ça passe et en fait le truc c'est que en mars 2020 du coup confinement. Donc au début ça m'arrangeait bien parce que j'aime pas l'école, mais au final ça aura bien empiré les choses.
Ça empire les choses, mais ce n'est pas uniquement le Covid qui cause le mal-être de Sai.
Le Covid, ça a juste été soit un amplificateur, soit une goutte d'eau qui a fait déborder un vase. C'est pas le Covid qui a créé les problèmes, ce sont les confinements qui ont amplifié tout ça, ce sont les privations de toutes les sorties culturelles, de voir des amis. Moi, je faisais du sport, je faisais des activités extrascolaires, je faisais de la musique, je faisais les mouvements de jeunesse. Donc déjà d'être enfermé dans la maison, tout le temps avec les mêmes personnes, sans pouvoir bouger, c'était assez dur.
En septembre, Sai entre alors en réto. L'enseignement hybride ne lui convient pas. Elle commence peu à peu à décrocher de l'école.
J'ai déjà beaucoup de mal à suivre quand un prof est devant moi. Alors derrière un écran, j'écoutais pas. Ça s'est ressenti sur mes points. Comme j'avais toujours envie d'avoir des bons points, ça a relancé mon anxiété. Enfin bref, gros bazar. Et puis est arrivée ma réto. Il y a un événement assez compliqué, une grosse dispute avec mon père qui s'est déclenchée le 1er septembre, juste avant de rentrer en réto. Et je pense que ça a été vraiment un truc qui a fait tout exploser. Donc je suis rentrée en réto, mais j'étais vraiment pas bien. C'était depuis janvier 2020 que j'allais pas bien. Et là, j'en pouvais plus. Enfin, on était en septembre 2021. Et ça devenait vraiment hard. Et j'ai continué à aller à l'école, mais ça allait pas. Je dormais plus, je mangeais plus, je me faisais beaucoup de mal. Enfin, il n'y a rien qui allait, vraiment.
Ça ne va plus pour Sai, et l'ado ne trouve pas de réconfort auprès de ses parents.
Ça a été très minimisé dans le sens où ils disaient « Non, mais c'est l'adolescence !» Bon, non, ce n'était pas l'adolescence. Mais donc, il y a eu beaucoup ce truc de... Ça a été fort minimisé. Ils m'ont emmenée voir une première psy, je dirais, entre 2020 et 2021. Et là, elle était nulle. Je suis désolée, mais elle était vraiment trop nulle. On a parlé un peu. Et le truc, c'est que elle a préféré me parler de genre mon homosexualité quand je lui expliquais que je voulais mourir. Donc je lui disais, ça va pas du tout, j'ai envie de mettre fin à mes jours, je me fais du mal. Et elle a dit, oui, et comment as-tu découvert que tu étais homosexuelle? Parce que j'avais des vannes arc-en-ciel, et elle était en mode, oui, c'est quand même assez révélateur. J'étais en mode, mais madame, j'ai envie de sauter par une fenêtre, pourquoi tu me parles du fait que je sois gay? Enfin, bref, du coup ça avait pas du tout été, mais j'ai toujours eu une relation assez conflictuelle avec les psys, j'ai jamais trouvé une personne vraiment avec qui j'ai accroché.
Jusqu'au jour où l'école de Sai engage une psychologue. Elle tombe enfin sur quelqu'un qui la prend au sérieux, qui l'écoute vraiment.
Et vraiment, quand elle m'a écouté parler, elle a dit alors, on va tout de suite appeler ta maman, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est dangereux, un peu. Elle a contacté ma maman, et là, ça s'est enchaîné assez vite. Donc, je suis rentrée le soir, on m'a emmenée voir mon médecin traitant, qui m'a posée en arrêt maladie, qui m'a mis sous certificat médical. Puis j'ai été deux ou trois fois aux urgences psychiatriques à Bruxelles, parce que là, c'était trop urgent.
Après ses allers-retours aux urgences psychiatriques, Sai se retrouve inscrite sur les listes d'attente de nombreux services de pédopsychiatrie. Le Covid et ses confinements ont accentué le mal-être de beaucoup d'adolescents. Résultat, les services de pédopsychiatrie et les centres de santé mentale sont incapables de prendre en charge tous les patients. Sai attend donc une place. Et durant cette attente, c'est toute sa famille qui est touchée par son mal-être.
Ma mère a dû arrêter de travailler pour me surveiller à la maison, parce que j'étais vraiment à un point où je devenais un danger pour moi-même. Je sais qu'un truc qui me marque fort, c'est qu'on devait partir un gros voyage en famille, les vacances de Noël, du coup, de cette année-là, et on est parti en Martinique, un truc incroyable, hein, vraiment. Mais sauf que j'étais tellement dans le mal, j'étais tellement pas bien, tellement en attente de cette entrée en hôpital, que j'ai pas profité de mon voyage en Martinique. Genre maintenant, je revois les photos, je suis en mode, mais c'était magnifique. Et non, en fait, je passais toutes mes soirées à pleurer dans ma chambre là-bas parce que je voulais rentrer en Belgique, ça allait plus du tout.
Heureusement pour Sai, l'attente n'est pas trop longue. Après 3 mois, elle entre au centre hospitalier psychiatrique Le Domaine à Braine-l'Alleud. Là, il y a une école et grâce à ses profs, Sai parvient à réussir sa réto. Une belle victoire qui est tout de même teintée d'une certaine amertume.
Ben, Le Domaine, c'était spécial. Sur le moment, ça m'a beaucoup aidée, vraiment. Ça m'a vraiment permis de m'en sortir. Mais en y repensant, je me rends compte que l'hospitalisation comme ça, c'est pas forcément la meilleure des solutions, parce qu'on est très vite mis sous médicaments. Moi, c'est un truc pour lequel j'ai vraiment envie de me battre, c'est qu'on arrête de surmédicamenter tous les jeunes qui rentrent. Parce qu'en fait, on arrive, on nous met des médicaments qui sont les mêmes que tous les autres jeunes prennent, et on nous informe ni des risques, ni de l'accoutumance, ni des dangers du sevrage après. Donc moi, je me suis retrouvée avec des gros médicaments à très forte dose. Et il y en a un que j'ai dû arrêter il y a 1 an. Et ça a failli me coûter la vie de l'arrêter parce que j'avais une psychiatre vraiment tout à fait pas du tout professionnelle qui m'a arrêté mon traitement d'un coup sans le diminuer. Enfin bref, et je trouve que c'est... On met des médicaments aux jeunes pour que ça devienne des zombies. Et juste qu'ils aient plus la force de se faire du mal ou qu'ils aient plus la force d'essayer de se tuer. Enfin, c'est... Il y a d'autres solutions, il y a plein de solutions de thérapie. Il y a tout, il y a la médiation par les animaux, il y a l'art, il y a les balades, il y a plein de choses à faire. Et je trouve que c'est pas nécessaire de fabriquer des zombies.
Et pourtant, la fabrique à zombies, comme dit Sai, connaît une constante augmentation. Entre 2021 et 2022, chez les moins de 18 ans, on remarque une augmentation de 17% du nombre de prescriptions de médicaments pour troubles de santé mentale. C'est ce que révèle le service d'études des mutualités chrétiennes. Après son séjour au domaine et l'obtention de son CESS, Sai décide de ne pas tout de suite retourner à l'école.
Ben en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas la force. Enfin, ça faisait vraiment, en comptant la cinquième où c'était des cours en distance, en comptant la réto où j'avais pas été, ça faisait quand même beaucoup d'années que j'avais pas eu des vrais cours, en fait. Et j'étais trop fatiguée, je suis sortie parce que ça allait mieux, mais tout disparaît pas comme ça. Et donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique, où j'ai fait un programme qui s'appelle Solidarcité. C'est un projet d'une année citoyenne pour les jeunes entre 16 et 25 ans, où en fait, on est encadré par 2 éducs. On reçoit des sensibilisations, il y a des gens qui viennent nous sensibiliser, on passe les brevets des secours, on a construit notre local ici sur un terrain à Louvain-la-Neuve. Donc on apprend à servir de plein d'outils, on apprend à faire plein de choses, on cuisine. C'est vraiment, je trouve, une super bonne option pour faire juste une pause dans sa vie. Parce que les éducateurs, moi j'ai eu de la chance, c'est Nathan et Nico, petite dédicace. Ils sont vraiment incroyables. C'est vraiment 2 personnes incroyables. Ça a vraiment été mes papas pendant toute l'année. Et ils m'ont aidé à trouver ce que je voulais faire après. Je savais que je voulais travailler dans le social. Et ils m'ont aidé, on s'est renseigné pour des écoles, ils m'ont dit quand il y avait des cours ouverts. Et donc ça m'a vraiment permis de me poser.
Et justement, et après ? Après les galères, les doutes, le domaine, la reconstruction, il se passe quoi pour Sai ?
Cette année, en septembre, je suis rentrée à Liège dans une école pour faire un bachelier en accompagnement psycho-éducatif. Donc en gros, c'est pour devenir éducatrice spécialisée. Et j'adore ce que je fais.
Je lui ai évidemment demandé si elle n'avait pas un petit peu appréhendé de reprendre les cours après une si longue pause.
Si. Énormément. Mais je sais que là, les examens, le blocus de... En plus, c'est plus des examens comme en secondaire. C'est vraiment... c'est de la haute école, donc voilà. Je sais que les examens de janvier, là, m'ont mis un gros coup. Parce que ben, là, ça fait quand même depuis novembre, décembre, je commence à avoir de plus en plus de problèmes au niveau de mon anxiété. Je recommence à être un peu en période un peu basse, je vais dire. Et donc, ouais, les examens m'ont quand même mis un gros coup. Et donc, c'est un peu dur là depuis. Cette fois-ci, j'ai retenu la leçon. J'ai pas attendu que ça parte en vrille pour demander de l'aide. Du coup, j'en ai parlé à ma maman. Et on a trouvé une psychiatre. J'ai eu mon premier rendez-vous il y a 2 semaines, je pense. Et j'ai rendez-vous encore lundi. Donc déjà, pour ajuster mes traitements, qui sont les mêmes depuis que j'ai quitté le domaine. Enfin, sauf un. Et pour gérer vraiment ce niveau de l'anxiété et ces choses-là. Donc cette fois-ci, j'ai retenu la leçon et j'ai parlé.
En parler, c'est d'ailleurs le conseil que Saï donnerait à tous les jeunes qui se retrouvent dans la même situation qu'elle.
Vraiment, je pense qu'il faut qu'on libère la parole là-dessus. Attendez pas pour en parler parce que plus on attend, plus ça empire et plus ça prend longtemps de guérir après. Vraiment, c'est ok juste de dire un jour, bah, aujourd'hui ça va pas, je me sens pas bien et qu'est-ce que je peux faire juste trouver les personnes adéquates. Il y a du monde autour, aller trouver des professeurs. Il y en a qui sont quand même assez formés pour réagir. Essayer de contacter des psys. Il y a des psys de première ligne qui coûtent vraiment pas cher. Il y a des lignes d'écoute gratuites qu'on peut appeler. Pas hésiter à vraiment parler. Ne pas rester enfermé avec soi-même. Et continuer d'y croire. Et s'ils y croient plus, moi j'y crois pour eux, vraiment.
Ça, il y aurait aussi un dernier conseil adressé cette fois-ci à tous les professionnels, encadrants, éducateurs, professeurs qui sont en contact avec ces jeunes en détresse.
Écoutez le jeune, mais pas le forcer à parler. Ça sert à rien de venir en disant « Bon, je vois bien que tu vas pas bien, maintenant raconte-moi ce qui se passe. » Non, c'est vraiment juste une attention en disant « Écoute, je remarque que pour le moment, ça va un peu moins bien. Sache que si jamais t'as besoin, moi je suis toujours là et je peux faire quelque chose pour toi. » Vraiment être plus dans se montrer disponible, pas forcer la parole, en tout cas pour les profs. Vraiment se dire « je suis là », essayer de remarquer les signes. Il y a quand même des signes d'un jeune qui vont mal. Il peut y avoir de l'isolement envers les autres, des notes qui chutent. Il peut y avoir dormir en cours. Moi, c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'allais pas bien. Et vraiment se montrer disponible, dire « je suis là ». Ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un jeune qui va pas bien. C'est « je suis là, quoi que tu me dises, je ne te jugerai pas et ça va aller ».
Et après, un podcast de Louise et du Pôle Louvain. Écrit et raconté par Magali Briffaut. Mixage, Nicolas Castorman. Habillage sonore, Samy Andoura. Montage, Magali Briffaut.
Et tendez l'oreille. Et après, c'est pas tout à fait fini. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Durant son séjour au domaine, Saï a fait la connaissance de Pierre Skonbrot, un journaliste qui réalisait un documentaire consacré à la santé mentale des jeunes. Vous vous souvenez au début de ce podcast, je vous disais que Louise avait été contactée pour faire la promotion d'un ciné-débat. Eh bien, c'est le documentaire de Pierre, Tout va s'arranger ou pas, qui était projeté lors de cet événement. Pierre, il est venu dans notre studio. Je lui ai dit que j'avais interviewé Saï et qu'elle parlait beaucoup de rendre la parole aux jeunes. J'ai demandé à Pierre, mais finalement, pourquoi c'est si difficile, si tabou de parler de santé mentale ?
Je pense que c'est l'histoire de nos civilisations-là, à travers cette question-là que tu poses. C'est vraiment beaucoup de choses variées. Moi, je crois que malheureusement, dans notre société patriarcale, on est pétri d'injonctions à aller bien, à être fort tout le temps, à ne pas pleurer, à se montrer, même dans les épreuves les plus douloureuses, d'un aplomb à toute épreuve. Hein. Nombreux sont les injonctions à ne pas pleurer lors de funérailles. Nombreux sont les garçons qu'on moque dans les cours de récréation lorsqu'ils pleurent. Je pense que ce tabou, il est le résultat de tout ça. Et donc, moi, je suis ravi de voir que que les fondements d'un certain patriarcat commencent à trembler, parce que je pense que eh bien, ça servira aussi la cause de la santé mentale. Donc c'est de dire que derrière ce patriarcat se cachent de nombreux enjeux qu'on ne soupçonne même pas, en ce compris la santé mentale et ses tabous.
Aller au-delà des tabous, parler des enjeux de santé mentale, rendre la parole aux jeunes, c'est loin d'être évident. Pierre a dû s'adapter.
Moi, en tant que journaliste, ça m'a complètement bouleversé parce que j'ai dû arriver avec une toute autre approche. Travailler comme journaliste audiovisuel, être bombardé comme ça du jour au lendemain sur un sujet, la santé mentale des jeunes, avec un outil audiovisuel, c'est s'interroger beaucoup sur ces pratiques. Comment est-ce qu'on peut nouer une relation de confiance? Comment est-ce qu'on peut imaginer une approche audiovisuelle qui soit respectueuse de leur souffrance, de leur image, de leur parole? Et il y a un moment où je les regardais comme ça dans le film, on le voit assez bien, hein, c'est des longs couloirs de type hôpital, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en fait, tous ces ados sont régulièrement couchés sur le sol, assis sur le sol, à côté d'une grande vitre sur laquelle ils avaient écrit des tas de mots, d'ailleurs, de phrases, de textes très bouleversants sur leur santé mentale. Et donc, moi, j'étais debout avec mon matériel, mes pieds de caméra, et je me rendais compte qu'en fait, j'étais pas au même niveau physique. Et je me suis assis avec eux. J'ai posé mon matériel et je me suis mis au même niveau qu'eux. Dans un premier temps, donc, sans matériel, juste pour les écouter et tenter de les comprendre et surtout ne pas les interrompre, me taire. Et donc, ça a été ça, cette nouvelle approche journalistique, se mettre au même niveau, écouter et se taire.
En écoutant et en se taisant, Pierre s'est rendu compte que l'art était omniprésent dans la vie de ces jeunes, qu'ils l'utilisaient pour exprimer leur mal-être.
Il y a le dessin qui est omniprésent, de la musique, ça y joue du ukulélé. Et puis alors maintenant, on a rajouté du slam même. Alors il ne fait pas partie du documentaire, mais en revanche, on a invité une slameuse à rejoindre le collectif Pincée de Coco, à qui je fais un petit big up là, et qui nous aide parce que, en fait, c'est intéressant en débat et en rencontre avec le public. Avec le slam, elle ouvre la porte, une nouvelle porte d'entrée, une nouvelle porte de compréhension, quoi. Comme elle slame sur sa santé mentale, on l'écoute avec toute sa façon de travailler les mots. Et je pense que ça nous aide à mieux comprendre ce phénomène. Et ça, c'est vraiment... L'art est incroyable pour ça. C'est qu'on peut... On a beau avoir tous les experts du monde, l'art fait appel à d'autres sensibilités de l'être humain. Et c'est parfaitement complémentaire avec la plus grande des théories intellectuelles.
Le documentaire que Pierre a réalisé, c'est finalement de l'art aussi, de l'art audiovisuel. Grâce au débat organisé autour de son film, Pierre est parvenu à libérer la parole. Je lui laisse le mot de la fin.
Tout va s'arranger ou pas, à ce talent de libérer la parole, le public se sent autorisé, après l'avoir vu, à témoigner, à sortir du bois, à partager des choses avec nous. Et ça, c'est vraiment, je pense, indispensable pour commencer un travail intéressant sur la santé mentale. Et c'est pourquoi, après une bonne grosse année de débats, de rencontres et de discussions où on a tenté de libérer la parole, on aimerait bien passer à une étape supérieure qui serait de construire des solutions, parce qu'on commence à avoir une expérience à force d'avoir entendu le public, à force d'avoir discuté entre nous en collectif avec les jeunes, les adultes qui la composent, eh bien on commence à avoir des petites idées qui n'existent pas forcément aujourd'hui, qui ne coûteraient d'ailleurs pas nécessairement beaucoup d'argent, mais qui pourraient soulager beaucoup beaucoup de souffrance. Donc voilà, pour résumer, ce film, c'est ça, c'est surtout ne pas le voir seul chez soi, parce que sinon on perd cette vertu collective, mais c'est vraiment lever le couvercle du tabou de la santé mentale.
Et après, un podcast de Louise et du Pôle Louvain.